Bonjour à tous. Bonjour les Zoomers. Profitez-en, c'est la dernière fois. On se réjouit de tous se retrouver en assemblée dimanche prochain. Et ce matin, donc, nous allons ouvrir la parole. Ok, super. Et on va poursuivre ce matin notre série dans Luc, l'évangile de Luc. Après avoir vu l'annonce du Sauveur en Luc 1 avec Jérémie, il y a quelques semaines de cela, puis avec Colin en Luc 2, l'arrivée de Jésus. Avec Ben en Luc 3 et 4, nous avons vu il y a 2 semaines que Jésus était le Sauveur suffisant et nécessaire envoyé par Dieu. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur la deuxième partie de Luc 4 et nous allons voir en particulier la mission de Jésus-Christ. Et à qui s'adresse la mission que Dieu a confiée à Jésus-Christ? Donc, je vous propose qu'on puisse lire. Il y aura un petit peu de lecture ce matin, mais la parole est vivante. Nous croyons qu'elle agit. Donc, on va lire Luc 4, versets 14 à 30. Et nous aurons une deuxième lecture dans le message. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois. Et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Jusqu'ici, la lecture. Alors, il est intéressant de constater que cet événement du discours dans la synagogue de Nazareth est en dehors de la chronologie des autres évangiles. En effet, Jésus parle des miracles qu'il a fait à Capernaum alors qu'il n'y est pas encore allé dans Luc. On n'a pas encore entendu parler de Capernaum. Il n'ira qu'au verset 31, à la suite de ce discours. Les commentateurs pensent par ailleurs qu'entre le verset 14 et le verset 15, au début, quand il commence à prêcher dans la Galilée, il s'est passé environ 1 an. Luc relate cet événement tout au début, car pour Luc, cet événement est une introduction du ministère de Jésus. Luc expose cet événement en premier, car le discours de Nazareth résume à lui seul le ministère de Jésus. Le serviteur choisi et missionné par Dieu pour proclamer, accomplir les promesses de l'Ancien Testament, guérir et délivrer, mais qui sera rejeté par les siens et qui va ouvrir le salut aux étrangers. Voilà la feuille de route, voilà le programme de campagne, un jour d'élection, de Jésus qui a été donné par Dieu à son Fils. Jésus va annoncer le salut à ceux qui en ont besoin, et cela va gêner ceux qui estiment n'en avoir pas besoin. Ainsi, je vous propose ce matin qu'on s'arrête sur le salut annoncé. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre ? Donc, on s'arrêtera dans un premier temps sur le salut annoncé et réalisé par Jésus. Ensuite, nous nous arrêterons sur les bénéficiaires de ce salut. Et enfin, nous finirons avec trois applications pour nous. La mission de Jésus, c'est de proclamer une année de grâce. Jésus lit dans le passage d'Ésaïe 61, qui annonce clairement la mission du Messie et dit qu'aujourd'hui, c'est accompli. Quel choc pour ces Juifs pieux de la synagogue. Jésus, en d'autres termes, se déclare comme le Messie attendu par les Juifs depuis 500 ans à des gens qui l'ont vu grandir, qui connaissaient son père. Peut-être que Joseph a refait le toit de leur maison. Ésaïe 61 et Luc 4, c'est l'évangile résumé en une phrase qui a été accomplie par Jésus. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si on reprend le texte d'Ésaïe, on voit que Jésus a arrêté sa lecture. Il a arrêté sa lecture au verset 2 à « pour proclamer une année de grâce de l'Éternel ». Et il ne lit pas « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Jésus est venu pour proclamer la grâce, le jugement ce sera pour après. Jésus est venu sur terre et a accompli des miracles, des délivrances, des guérisons et des résurrections extraordinaires comme personne avant lui et personne après lui. Néanmoins, il n'a pas guéri tout le monde. Et ce texte nous le rappelle. Par contre, il a apporté le salut de Dieu à tous ceux qui le souhaitaient à l'époque et à ceux qui le souhaitent encore aujourd'hui. Jésus est venu du ciel pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, on voit ça en Lévitique 25, c'est la remise des dettes. C'est l'année, c'est la 50e année où tous les Juifs peuvent retourner libres dans leur clan, récupérer leurs terres. C'est une année de remise de dettes. L'année de grâce, c'est la remise des dettes des hommes. En d'autres termes, c'est le pardon accordé à chaque homme, chaque femme, pour ses désobéissances, pour ses fautes, pour tout ce qui lui pèse. C'est la délivrance des oppressions, de ses pensées qui peuvent le harceler, de ses personnes qui peuvent être mal intentionnées, et de l'ennemi. C'est le don d'un nouveau cœur, de chair, réparé. Et c'est le fait de rendre riche tous ceux qui le souhaitent, de devenir des héritiers du roi à tous ceux qui étaient pauvres et loin et exclus. Je vous propose ce matin d'écouter un chant d'Antidote qui résume bien ce qu'a réalisé pour toi, pour moi, ce Jésus, cet homme tombé du ciel. La technique
Ça fait plus de 2000 ans, donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque, car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien.
Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle. Venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh.
On imaginait Dieu au-dessus des nuages dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ce qu'on évite du regard. Il s'est fait homme sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs, il a goûté à nos joies et nos crèves-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains, pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort, on a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire.
Il y a eu depuis le début des chauds, des bas, en haut débit, des hauts, des bas. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés.
Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix. Cette croix, cette croix.
Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce pont entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Cet homme, d'où vient-il sinon tombé du ciel, descendu pour nous y faire remonter pour l'éternité. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle. Descendu pour nous y faire remonter,
nous faire remonter.
Entre l'humain et le divin, il est la passerelle,
la seule passerelle.
Venu restaurer l'harmonie brisée.
Merci. Quel beau chant. Quel beau résumé. Ce tombeau ouvert, ce pardon offert. De quoi as-tu besoin ce matin? Jésus est venu mourir sur la croix et ressusciter, apporter la guérison de nos cœurs tordus et rétablir des passerelles entre toi et ton Créateur. Ouvrir un pont entre ciel et terre. Quelle nouvelle! Et ça, c'est réel. Une autre remarque pour cette partie, ce texte nous parle d'annoncer, de proclamer le salut. Est-ce que ça ne vous rappelle pas annoncer, accueillir, affermir? C'est aussi notre rôle en tant qu'Église de proclamer l'Évangile, nous les bénéficiaires de la grâce, que c'est encore le temps de la grâce. Nous sommes la vitrine de pécheurs graciés et des païens qui ont été ajoutés au plan du salut. Nous ne sommes pas, nous ne sommes plus une addition d'hommes pécheurs et de femmes pécheurs, mais nous sommes une multiplication de pécheurs graciés qui, avec le coefficient multiplicateur de l'aide du Seigneur, essayons de vivre ensemble et de nous encourager ensemble dans les bons et les moins bons moments. Alors maintenant, je vous propose de regarder quels sont les bénéficiaires de ce salut. Et j'ai été, quand j'ai relu ce texte plusieurs fois, j'ai été particulièrement interpellé par ce que je vais vous dire maintenant. Au verset 22, il est dit que tous les Juifs de son village, de la Galilée, lui rendent témoignage. Et au verset 28, tous finissent par vouloir le tuer. Au verset 22, tous lui rendent témoignage. Au verset 28, tous veulent le tuer. Quelle volatilité! Quel retournement de veste! Ces deux expressions du verset 23, « Médecin, guéris-toi toi-même et fais ici dans ta patrie ce que tu as fait à Capernaum », sont les pensées des Juifs nazaréens à ce moment-là, que Jésus va dire tout haut et révéler ce qui est réellement dans leur cœur, de la méfiance, de l'orgueil et de la colère. Et par opposition, Jésus va prendre deux exemples incroyables. Jésus va ensuite prendre deux exemples de bénéficiaires du salut qu'il vient accomplir. Des personnes non juives, en dehors du peuple élu, des ennemis du peuple de Dieu, Naaman, le général syrien, le général des armées ennemies, la veuve de Sarepta, la phénicienne. Et on peut lire ça en 1 Roi 17 pour la veuve de Sarepta. Des ennemis du peuple de Dieu qui ont accès à Dieu. Quel scandale! J'aimerais qu'on s'arrête un peu plus longuement ce matin sur l'exemple de Naaman, le général syrien, qu'on va lire et on va prendre la lecture en 2 Roi 5 et on va lire les versets 1 à 17. Parce que cette histoire de Naaman, qu'on a abordée il y a quelque temps lors d'un culte de famille avec Vali, mais cette histoire de famille nous apprend des choses sur comment devenir un bénéficiaire du salut. Deux Rois 5, versets 1 à 17. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Au verset 8, « Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, qu'on me donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » La situation de Naaman. Naaman est estimé, il a de la réussite, il est super qualifié, super reconnu, mais il devient lépreux. Lui, l'homme auréolé de prestige, est destiné à être rejeté à cause de sa maladie. Lui, habitué à trouver des solutions sur le champ de bataille et habitué à remporter des victoires et à ce que rien ne lui résiste, est dans une impasse. Le désespoir de cet homme et de sa femme est tellement grand qu'ils s'en remettent à une jeune esclave étrangère et ils vont même jusqu'à répéter les paroles de ce que va dire cette petite fille. C'est comme si Jean Castex répétait les conseils d'une petite fille immigrée à Emmanuel Macron. C'est possible. C'est pas tous les jours. Il me manque quelques... C'est pas grave. La lèpre symbolise le péché dans notre vie. Le péché, c'est le fait que malgré tous nos efforts, nous avons des comportements et nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Comme la lèpre qui séparait les malades des gens saints, le péché sépare l'homme de Dieu et produit un vide en chaque être humain. C'est ce vide conscient ou inconscient qui, malgré le fait qu'on peut être bien sous tout rapport, aimer notre famille, dans notre travail, avoir de la réussite, c'est ce vide qui vient du péché dans notre vie qui peut nous rendre malheureux au fond de notre cœur et cela ne se voit pas forcément à l'extérieur. Et c'était le cas des Juifs nazaréens. La solution pour Naaman, c'est que dans un premier temps, il va essayer d'obtenir la guérison par ses qualités. Une lettre de recommandation du roi de Syrie, de l'or, et pas qu'un peu, de l'argent, et pas qu'un peu, son prestige. Il met toutes les chances de son côté. Mais il n'y a pas de solution à son problème. Même les rois de Syrie ou d'Israël ne peuvent pas l'aider. Son vrai problème. Quand Dieu lui présente sa méthode, il refuse. C'est trop simple. Rien à payer, rien à faire, rien de flamboyant, rien de digne d'un général. C'est trop simple. Mais pas si facile, en fait. Naaman attendait plus d'égards envers son importante personne et s'est obstiné à ne pas écouter ce que lui disait Dieu. Naaman était plein d'orgueil. L'orgueil, c'est lorsqu'on croit qu'on est capable de faire de grandes choses mieux que les autres sans tenir compte de ses capacités réelles, de l'avis des autres ou de la réalité. C'est cette pomme qui se voit si belle. Trop belle. Et cela nous mène à des échecs. Un peu comme le lièvre et la tortue, à force de se croire supérieur, le lièvre a perdu la course. Et c'est là où nous mène très souvent notre orgueil. Toujours notre orgueil. Le commentaire Moody a dit que Naaman souffrait de deux maux, l'orgueil et la lèpre. Il avait besoin d'être guéri du premier autant que du second. Naaman devait descendre du char de son orgueil pour se laver selon la méthode prescrite. Naaman devait descendre du char de son orgueil pour se laver selon la méthode prescrite. Si on réfléchit bien, la manière dont Naaman a pu être guéri se rapproche de la manière dont nous pouvons obtenir le salut. L'évangile, c'est simple. L'évangile, c'est simple à comprendre et parfois difficile à accepter pour notre ego humain. Je me retrouve dans cette attitude de Naaman, parfois encore maintenant. Longtemps, j'ai cru l'évangile trop simple pour être vrai. Rien à payer, rien à faire. Accepter que je ne puisse rien faire et que seul Jésus-Christ me justifie de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'étais, de tout ce que je suis encore parfois. Accepter que je ne puisse rien faire et que seul Jésus-Christ me justifie est le commencement à toute action de Dieu dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu peut me sortir de mon impasse et remplir pleinement le vide de mon cœur. Je pense que tous ceux qui l'ont vécu peuvent dire qu'il n'y a rien de pareil sur terre. Quand Dieu vient intervenir dans ma vie, dans mon cœur, dans ma situation, pour me sortir et me donner un nouvel accès au Père. Alors Naaman accepte et miracle, il est guéri de la lèpre. C'est le miracle de la foi dans le Dieu de la Bible. La foi en Dieu guérit et transforme en une nouvelle personne. Sa déclaration que l'on trouve au verset 15, « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël », est une profession de foi au Dieu d'Israël. C'est une conversion nette. Et ce n'est pas tout. On voit également qu'il est guéri de son orgueil dans son changement d'attitude. Lui qui dédaignait les eaux boueuses du Jourdain veut désormais repartir avec de la terre jusqu'à Damas pour offrir des sacrifices. Alors, trois applications pour nous ce matin. Quels sont les vrais bénéficiaires du salut. Parfois, on a aussi des idées arrêtées sur comment Dieu devrait agir dans telle ou telle situation. Et comme ces Juifs nazaréens, qui est-ce qu'ils pourraient sauver? Et ces Juifs nazaréens pensaient que le Messie ne pouvait pas être ce fils de charpentier qui avait grandi avec eux et que le Messie ne pouvait pas sauver des ennemis de la nation élue. Les Juifs nazaréens se considéraient par leur naissance, leur origine géographique, leur religion, leurs œuvres, leur famille, comme supérieurs aux païens. À la différence de Naaman, les Juifs de Nazareth n'ont pas voulu quitter leur orgueil pour recevoir le salut, et se sont entêtés jusqu'à vouloir faire mourir l'un des leurs l'un de leurs enfants, Jésus, qui était né à Nazareth, qui avait grandi à Nazareth. Ainsi, si on regarde bien Naaman et la veuve de Sarepta, on a devant nous une femme qui, à l'époque, encore plus que maintenant, est le symbole des personnes opprimées. La veuve de Sarepta, qui était pauvre, qui allait mourir, et à qui Élie va demander son dernier bout de pain, est le symbole de tous les pauvres. Naaman et sa femme étaient tristes, et ils sont tristes. Ils étaient malades, ils étaient païens, ils étaient lépreux. Tous ces exemples sont des exemples types des bénéficiaires d'Ésaïe 61, pour qui Jésus est venu apporter le salut. Une vérité fondamentale de ce texte est que le salut est pour ceux qui réalisent leurs besoins de secours de la part de Dieu. Le salut est pour tous ceux qui réalisent leurs besoins de secours de la part de Dieu. Alors pour nous, à qui annoncer le salut ? En tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Alors à nos proches, bien sûr, à nos familles, à nos voisins, à nos collègues, oui, mais on voit ici que même pour Jésus, cela n'a pas été évident. Ne nous étonnons pas parfois de la résistance envers notre discours dans notre propre famille. Mais prions pour la perméabilité à l'Évangile, parce que parfois d'autres pourront le faire. Je prends l'exemple des camps de vacances. Les églises et les groupes d'école du dimanche et de jeunes annoncent et annoncent et annoncent, et quand ils arrivent dans les camps, ils sont mûrs. Un autre annonce et des décisions sont prises. Ne nous décourageons pas, mais prions. Et nous savons que le Seigneur a plusieurs ouvriers aussi dans sa moisson. Alors ce texte nous invite bien sûr à annoncer aux nations. Annoncer le salut aux nations. Est-ce que dans la salle ce matin, les personnes qui sont d'une origine différente que de France peuvent lever la main, s'il vous plaît ? Ok. Manu Renard, lors du congrès CAEF d'il y a quelques semaines, nous a encouragés en disant que l'Église était une association de cultures différentes, une association de cultures, de nationalités différentes qui vit ensemble concrètement depuis des années, voire des dizaines d'années. Et ça, c'est un puissant témoignage que l'Évangile est une réalité et qui donne envie à nos contemporains qui essayent de la vivre, mais qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est rendu possible par le salut que Jésus est venu annoncer à toutes les nations. Au mois de septembre, nous allons avoir un week-end où nous allons réfléchir et nous remettre en question sur comment annoncer le salut à nos amis musulmans. Et ça aussi, c'est une manière d'annoncer le salut aux nations. Et ce texte nous parle aussi d'annoncer à une troisième catégorie, c'est-à-dire aux rejetés des nations. Et nous croyons que ce projet de réhabilitation, et nous voulons croire que ce projet de réhabilitation de la maisonnette à côté est aussi, et va dans ce sens, dans le sens où il y aura un lieu d'accueil, il y aura un logement pour des personnes en détresse, pour des demandes, pour des réfugiés, et c'est notre objectif. Dernière application, c'est le positionnement face à Jésus. Dans ce texte, dans ces deux textes de Luc et de Roi, on voit deux mouvements opposés. D'un côté, on voit Naaman, qui est au départ indifférent, qui ne comprend pas ce que Dieu lui demande, qui est orgueilleux, qui a un sentiment d'autosuffisance, qui défie, qui méprise le prophète de Dieu et qui rejette. Et dans le texte, dans le cheminement de Naaman, on voit que petit à petit, il se remet en question jusqu'à rendre témoignage, accepter et glorifier Dieu. Et à l'inverse, on voit les Juifs nazaréens qui au début rendent témoignage. Ouais, super, il y a des guérisons. En plus, on le connaît. Et à la fin, veulent le tuer. Face à Jésus, il y a des gens qui ont besoin d'aide et d'autres qui se sentent supérieurs. Et toi, où tu en es? Quel mouvement réalises-tu en ce moment face à Jésus? Est-ce que tu t'éloignes ou est-ce que tu t'en approches en pliant le genou? En conclusion, rappelons-nous que les eaux claires des fleuves de Syrie, l'Albana et le Parpar, qu'on connaît tous très bien, étaient bien plus propres que les eaux boueuses du Jourdain. L'important n'était pas la qualité de l'eau, mais l'obéissance et la confiance à ce que Dieu dit. L'importance, c'est l'obéissance et la confiance à ce que Dieu dit. Rappelons-nous aussi que descendre du charge de notre orgueil est le seul moyen afin que Dieu puisse agir puissamment dans nos vies. Rappelons-nous aussi que Dieu ne regarde pas à notre origine, notre apparence ou à notre passé, mais Dieu regarde à notre cœur, comme ça nous a été rappelé par Philippe la semaine dernière, entre le cœur de David et le cœur de Saül. Et dernièrement, rappelons-nous aussi que le temps du salut et de la restauration est encore ouvert aujourd'hui, en 2021, à chacun d'entre nous et à toutes les nations, et que notre mission individuelle et collective est d'annoncer, d'accueillir et d'affermir cette bonne nouvelle du salut avec son secours et sa bienveillance. Amen.